Mémoire d'un continent.
Elikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Enseigner l'histoire générale de l'Afrique. L'Afrique face aux nouveaux défis du 21e siècle. L'histoire s'intéresse essentiellement aux activités des hommes à travers le temps. Le temps passé, bien sûr, mais aussi le temps présent. Et de plus en plus, on parle d'histoire et de prospective, les activités des hommes dans les temps à venir. Un proverbe très courant dans toutes les sociétés africaines pose cette question. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment saurais-tu où tu vas? Comment saurais-tu où tu dois aller? Et c'est évident que les nouveaux défis auxquels l'Afrique est confrontée fait partie des leçons que développe ce projet d'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique. Il faut bien regarder les choses comme elles sont. Au moment où ce projet se mettait en place, il y avait un petit nombre de pays africains indépendants. Ils étaient une demi-douzaine et en augmentant au fur et à mesure à travers le temps. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la liste des États membres de l'Union africaine, ils sont déjà 52 États. Et quand on regarde la liste de l'un des regroupements régionaux les plus dynamiques, les plus efficaces et les plus visibles, je veux parler de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique occidentale, ils sont 15 membres. Il faut que ces groupes, à l'échelle du continent et à l'échelle des régions, aillent de l'avant, chacun des États abordant les problèmes pour son propre compte, mais jamais on n'est capable de gagner que lorsqu'on va en équipe, les groupes d'États essayant de résoudre ensemble un certain nombre de questions. Le travail pédagogique pour mettre au point à la fois la manière d'enseigner, les compétences qu'il faut acquérir et les dispositions qui doivent être celles des jeunes gens a été dirigé par le professeur Abdoul Sow, historien, pédagogue, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est notre invité aujourd'hui et que nous avons au téléphone depuis Dakar. Bonjour professeur Abdoul Sow.
Bonjour.
Vous avez donc, on arrive donc à l'une des dernières leçons de cette liste de l'utilisation pédagogique, dans lesquelles donc, comme toujours, vous posez les compétences que les jeunes gens doivent acquérir. Alors cette fois-ci, quelles sont-elles?
Les nouveaux défis auxquels l'Afrique est confrontée au XXIe siècle, c'est, je vais partir de Thabo Mbeki qui parlait de renaissance culturelle et qui l'a défini. Il l'a défini comme ça, c'est un renouveau de l'Afrique en termes de démocratisation et de développement économique et culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les défis que nous, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est les défis de la paix, les défis de l'éducation, les défis du développement durable, les défis du genre, et on peut continuer la liste.
Dans tous ces défis, on a l'impression, quand on regarde l'actualité, que bon, il y en a plusieurs qui apparaissent très nettement, mais le premier quand même reste le défi de la bonne gouvernance. On
Absolument.
Pensait à la fin des années 90 que, avec les conférences nationales, l'Afrique basculait définitivement dans la gouvernance démocratique. Alors comment les historiens analysent les soubresauts actuels et comment peuvent-ils aussi dégager quelques perspectives pour aller de l'avant dans la bonne voie?
La bonne gouvernance. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est amener nos jeunes à savoir ce que c'est que la bonne gouvernance, à comprendre que cette bonne gouvernance exige un certain nombre de faits, tels que la stabilité, tels que la transparence. Et donc, bonne gouvernance veut dire un certain nombre de règles qu'il faut respecter dans nos pays. Et ce qui se pose, le problème qui se pose aujourd'hui en Afrique, c'est que les gens s'accrochent au pouvoir. Les gens s'enrichissent sur le dos des populations. Les richesses ne sont pas redistribuées correctement. Donc cette bonne gouvernance pose problème. Et je crois que la charte africaine de l'Afrique l'a posée en termes très clairs pour amener les gens à avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs dans tous les pays.
Et là, on se rend compte qu'il y a des pays qui se sont durablement installés dans cette dynamique. Et puis, il y en a d'autres, comment dire, qui vont de l'avant, reviennent en arrière, quelquefois se bloquent, avec parfois aussi des violences qui viennent ensanglanter l'espace politique.
Oui, c'est pour pourquoi je dis, dès le départ, il faut qu'on ait la culture de la paix. Ce que nous voulons en Afrique, c'est un pays africain, un Africain sans racisme, sans xénophobie, etc., etc., etc. Donc, je crois que la bonne gouvernance ne peut se faire dans nos pays que si on élimine tous ces problèmes et qu'on ait une Afrique avec un Africain. On met de côté le tribalisme, l'ethnicisme, le racisme, la xénophobie. Et c'est ça qui nous permet de mettre en place la bonne gouvernance. Et si vous prenez au niveau de l'échelle, au niveau africain, au niveau du continent africain, c'est pareil. On a une Afrique, il nous faut une Afrique, un Africain, une intégration africaine, une unité africaine que les gens essaient de mettre en place. Mais maintenant, il faudra réfléchir sur comment nos élèves vont appréhender cette question, cette limite du continentalisme en Afrique. Il y a des problèmes. Il faut maintenant amener nos enfants à prendre conscience de ces principes et de ces limites pour pouvoir parler de bonne gouvernance.
Dans une précédente émission, professeur Abdoul Sow, vous avez montré que, au fond, dans le passé, l'Afrique a eu des États qui étaient parfois beaucoup plus grands territorialement que les États d'aujourd'hui. Et à l'intérieur de ces grands espaces, ils sont arrivés à, justement, une stabilité, le respect d'un certain nombre de principes qui leur ont permis de durer plusieurs siècles. Or, dans l'espace de, donc ça nous fait aujourd'hui à peu près 70 ans d'indépendance, combien de régimes n'ont pas été bousculés, n'ont pas été ensanglantés par des révoltes, des coups d'État, etc. Donc on a l'impression que l'enseignement du droit, c'est une chose, la pratique du droit, c'est une autre chose encore, mais que peut-être il faut justement, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à l'histoire pour montrer que ça a été possible et que donc on ne va pas chercher le modèle, je ne sais pas, dans la charte du Royaume d'Angleterre ou dans la Déclaration des droits de l'homme, mais peut-être à partir de l'élan que l'Afrique a connu elle-même dans le passé.
Oui, mais au départ, la première leçon que nous avons faite, je me souviens, sur l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Sorel, c'est le débat qu'on a posé. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de nous accrocher aux constitutions occidentales, au modèle occidental? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir encore sur ce que nous avions, les acquis que nous avions, les valeurs que nous avions, et les remettre en surface à partir de l'unité africaine ou l'union africaine, tout ce qu'on veut, pour maintenant faire du neuf. Parce qu'on est obligé aujourd'hui de réfléchir autrement qu'avant. On nous a formaté pour un modèle, et ce modèle ne marche plus pour nous. Je vais donner un exemple, très simple, sur la bonne gouvernance. Regardez ce qui se passe entre la Méditerranée et l'Afrique du Nord, et les populations qui migrent. Il y a combien de jeunes qui meurent dans l'océan et la Méditerranée? Tout simplement parce qu'ils pensent que l'aide de l'autre se trouve de l'autre côté, ce qui est faux, c'est un mirage. Alors, est-ce que ce n'est pas un manque d'estime de soi? Est-ce qu'on leur a appris à s'aimer eux-mêmes, à avoir les valeurs qu'ils ont? Ils pensent que ce qui vient de l'extérieur est meilleur que ce que nous avons. Alors que je dis, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que nous avons ou ce que l'histoire nous a légué. Enseignons l'histoire, revisitons l'histoire, essayons de voir ce qui s'est fait de bien, et essayons de le remettre en place. Si on prend là, comme tu disais tout à l'heure, les cercles concentriques, là, on a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, etc. C'est là où on doit commencer le travail. Je crois que l'Union africaine aussi est dans cette voie. La CEDEAO l'a montré cette fois-ci, dans le cadre de la Gambie. Une guerre n'est jamais bonne. On ne veut pas une guerre. Heureusement que ce sont les Africains eux-mêmes qui, par un système de régulation, ont mis fin à un conflit qui allait aboutir à une guerre.
Et alors que dans d'autres cas, on a vu par exemple comment lorsqu'il y a des interventions de troupes occidentales, elles peuvent être européennes ou américaines, dans des espaces dont ils ne connaissent pas la civilisation, les cultures, le genre de vie, eh ben, ça provoque des dégâts très 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 difficiles à remettre en place. Et quelquefois, des États sont détruits, parfois définitivement ou durablement, comme on le voit dans certaines régions d'Afrique du Nord ou comme on le voit encore au Moyen-Orient. Donc, au fond, c'est pas pour faire de la nostalgie inutile, mais connaître ses fondamentaux parce que c'est sur ce socle, justement, qu'on peut construire du nouveau. On parle beaucoup, professeur Sow, de l'État-nation dans lequel les gens croient quelquefois que, il y a une identité unique pour les gens, alors que ce que vous avez montré, par exemple, pour le Sonrai, pour le Ghana, c'est que des identités locales peuvent coexister avec une identité nationale que tout le monde partage.
Absolument. Mais dans la charte culturelle, on en parle, on explique dans la charte culturelle qu'il faut le respect des minorités. Les minorités font partie. C'est ça la démocratie. Mais les minorités, ils ont des droits culturels, ils ont des droits qu'on doit sauvegarder. Et tant qu'on continuera à marginaliser les minorités, l'Afrique ne sera pas un pays stable. Surtout qu'on a un soubassement, on active, il y a des gens qui activent le tribalisme, l'ethnocisme pour différentes raisons. Bon, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer dans cette voie-là. Il faut qu'on amène nos enfants à leur faire prendre conscience des dangers qui nous guettent. Parce que l'avenir, c'est l'Afrique. Hein. L'avenir du 21e siècle, c'est le 21e siècle de l'Afrique. Nous sommes sur la voie, mais il nous faut être plus rigoureux, développer la culture du travail, combattre le laxisme, la facilité, la corruption, le népotisme, et faire développer la culture du travail, que tout le monde travaille, et qu'il y ait la transparence, la bonne gouvernance, et la paix et la sécurité.
Il n'y a pas de dignité sans liberté.
Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays.
Professeur Abdoul Sow est notre invité depuis Dakar pour parler de l'histoire générale de l'Afrique et son transfert vers des formules adaptées pour l'enseignement des jeunes gens dans l'école primaire et dans les cycles du secondaire. Et nous évoquons les nouveaux défis auxquels l'Afrique est confrontée au XXIe siècle. Professeur, on a beaucoup parlé à une époque de différents plans de développement pour le continent africain. Il y a eu en 1980 le plan de Lagos. À l'époque, c'était l'Organisation de l'Unité africaine. Et puis il y a eu en 2001, vous avez évoqué le nom de Thabo Mbeki, le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le défi africain sur le plan économique se présente en quels termes quand on l'accule à la longue durée?
Je ne pourrais pas répondre exactement à cette question pour tout le monde, mais je peux prendre un exemple un peu précis, hein, pour être précis. Si je prends le NEPAD de manière générale, je prends le cas du Sénégal. Bon, le NEPAD, on l'a senti sur les voies de communication, mais il reste beaucoup à faire. Je ne sais pas maintenant comment ça se passe dans les autres pays. Ça aurait pu être un bon projet parce que le NEPAD veut faire la jonction entre l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est. Ensuite, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Au moins, si les communications sont développées en Afrique, on aura réglé un certain nombre de problèmes. Il y a maintenant les infrastructures qui doivent suivre. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a, et ça c'est mon avis personnel, pas très scientifique ce que je dis, mais c'est un peu subjectif, j'ai pas l'impression que la connexion, elle est faite, que ça avance. Moi, j'ai l'impression que ça traîne un peu, pour diverses raisons.
Oui, on avait parlé notamment de tout le réseau routier qui était à, j'allais dire à refaire, mais à faire. On avait parlé des chemins de fer dans une vision grandiose. Et on pensait évidemment que l'Afrique a les ressources pour faire cela et que cela contribuerait évidemment à donner du travail aux jeunes gens, aux jeunes femmes, à créer des entreprises. Et ça, on a l'impression qu'on a pris quand même un peu de retard parce que nous allons déjà vers les 20 ans de ce NEPAD. On commence à parler de du rêve de l'horizon 2063 pour les 100 ans de l'organisation africaine. Trop de projets, on a l'impression, risque parfois de tuer l'élan vital.
Absolument. On a beaucoup de retard par rapport à ces projets que ces anciens avaient mis en place. Et je pense qu'il faudra aussi réfléchir sur les modalités de redévelopper ou de redéployer tous ces projets-là. Regardez le chemin de fer Dakar-Bamako, qui est un chemin de fer colonial, il y a pratiquement plus de train. Il n'y a plus de connexion, il n'y a que la route maintenant. Et vous voyez, les rails ont été démantelés au Sénégal, on a enlevé les rails qu'on a fondus faire des puits, je ne sais quoi. Ça, c'est du jamais vu. Tous les pays qui se sont développés dans le monde se sont développés grâce au chemin de fer. Les États-Unis, c'est le chemin de fer. La Russie jusqu'en Sibérie, c'est le chemin de fer. Mais bon, en Afrique, on déraille les rails, si vous voulez, on les enlève.
Nouveaux défis encore, les défis de l'environnement. Et je pense que c'est une innovation tout à fait essentielle que dans les cours d'histoire, on introduise la question de l'environnement. Que certaines personnes ont l'impression que tout se passe bien sur le continent africain, mais on a parlé à une époque de la désertification. On a parlé aussi des menaces sur la forêt. C'est vraiment un enjeu important. Vous avez dit tout à l'heure que l'Afrique est peut-être l'avenir du monde dans ce troisième et peut-être quatrième millénaire. Comment est-ce qu'on peut traduire cela dans un cours d'histoire?
Alors, tout au long des unités d'enseignement, pour chaque tranche d'âge, nous avons introduit un cours sur les changements environnementaux, les changements climatiques, les changements environnementaux. Et si on prend les 17 ans, on a les défis posés par les changements environnementaux qui vont essayer de comprendre, d'expliquer, ils sont capables d'expliquer les défis posés par les changements environnementaux, ils sont capables d'expliquer les causes du changement, on leur demande de comprendre cela, et de pouvoir l'expliquer aux gens, ils sont capables de décrire les manifestations, comme tu l'as dit tout à l'heure, les différentes manifestations des changements climatiques, les conséquences, les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, etc. etc. Et que vous savez que l'Afrique de l'Ouest, par exemple, va avoir une augmentation de cette température de 0,2 degrés à 0,5 degrés. Et les précipitations aussi vont augmenter de 2,5 à 5,1. Donc, ça, on va. Et les conséquences maintenant, c'est là où l'enfant va prendre conscience des conséquences majeures du changement climatique dans son environnement. Dans l'environnement, dans son village, ou sa région, ou son pays, etc. Alors là, il va être capable de voir, d'analyser l'impact des changements climatiques sur le processus d'organisation de l'Afrique. Donc, il y a plein de choses qu'on va les former. Et là, je vous avoue que ce cours-là, ou ces cours, donc, a été fait directement par... C'est un groupe qui l'a fait. Et on a recruté une assistante dans notre département qui est docteur en climatologie. On a recruté, qui nous a aidé à élaborer cette partie des fiches qui sera très difficile pour les enseignants de dispenser, s'ils ne sont pas formés pour ça.
Une alliance, donc, entre sciences de l'homme et sciences de la nature. Mais il y a encore un dernier aspect parmi les choses importantes. Le cours, ce sont des jeunes gens. Dans beaucoup de pays, les classes sont encore séparées. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Dans certains autres pays, le mélange se fait. La question du genre est parfois posée, disons, en référence toujours aux grands textes internationaux qui souvent nous viennent de l'Occident, alors que cette question peut se raccrocher aussi à l'histoire de l'Afrique où les femmes occupent une place de tout premier plan. Et d'ailleurs, lorsque dans l'histoire générale de l'Afrique, on abordait la question des mères de l'indépendance, c'est-à-dire les femmes qui ont contribué d'une manière décisive à l'indépendance des pays africains, on a constaté qu'elles étaient nombreuses et souvent en très bonne position.
Absolument. Et l'histoire générale de l'Afrique donne une place importante à ces femmes. Et là aussi, on a les gens partent dans toutes les unités d'enseignement. De 13 ans à 19 ans, nous avons chaque fois un cours sur le genre pour expliquer aux enfants le concept de genre, pour qu'ils le comprennent, leur expliquer le rôle. C'est un concept qui est différencié, donc qui est matérialisé par le sexe, la race, l'âge et les conditions économiques, etc. Et l'amener à voir quelle est l'importance de la place de la femme dans le développement. Donc ces femmes et développement durable, que nous développons, par exemple, pour les 17 ans, cette question qui est abordée, et que l'enfant doit être capable de montrer la place de l'approche genre dans le développement durable de l'Afrique, qu'on va lui expliquer pour que ça puisse prendre conscience. Pourquoi pendant longtemps les femmes sont marginalisées, alors qu'aujourd'hui, elles sont l'élément moteur du développement économique de l'Afrique. Elles font au moins une place très importante dans le développement économique de l'Afrique. Les femmes n'avaient pas accès à la terre. Les femmes n'avaient pas les mêmes droits. Les religions révélées aussi limitent leur place dans la société. Et donc tout ça, bon, on va essayer de développer ces idées, d'amener l'enfant à prendre conscience de tout ça pour un changement de comportement par rapport à la femme vis-à-vis de la femme.
Merci beaucoup à vous, professeur Abdoul Sow, professeur à l'Université de Dakar, pour ces leçons directes en avant-première, avant que les manuels soient distribués à travers les différents pays du continent africain. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent. Réalisation, Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.